Charles et Mary Lamb, conte tiré de Shakespeare, Le Marchand de Venise. Le juif Shylock, usurier de profession, avait amassé à Venise une immense fortune en prêtant à gros intérêt aux marchands chrétiens. Créancier rapace et sans entrailles, il exigeait avec une implacable rigueur l'exécution littérale des engagements contractés envers lui et s'était fait à Venise de nombreux ennemis. En revanche, Shylock haïssait à mort un certain Antonio, riche et généreux négociant de la ville, qui prêtait sans intérêt aux gens en détresse et ne manquait jamais à la bourse de lui faire d'amers reproches sur son inhumanité à l'égard de ses débiteurs. Le juif écoutait tout sans mot dire, mais en se jurant à lui-même de se venger. Obligeant jusqu'à la prodigalité, Antonio était bien le plus noble type italien du vieil honneur de l'ancienne Rome. Tous ses concitoyens l'adoraient, mais de tant d'amis, celui qu'il affectionnait le plus était le noble vénitien Bassanio, dont le mince patrimoine avait été englouti dans cette folle existence que mènent trop souvent les fils de famille plus nobles que millionnaires. Heureusement pour le jeune et cervelé, la bourse d'Antonio lui était toujours ouverte comme son cœur, et il ne faisait pas faute d'y puiser. Un jour, il vint demander au négociant 3 000 ducats. « Que veux-tu faire d'une pareille somme, tonneau de Danaïde ?» dit Antonio en souriant. « Je suis amoureux fou d'une riche héritière, » répondit Bassanio, « et je crois, à certains messages éloquents partis de ses yeux, que je serais le bienvenu si je lui faisais ma cour. » Mais le moyen de courtiser et de plaire quand on loge le diable dans son escarcelle. C'est juste, dit l'excellent homme. Malheureusement, ma caisse est aussi vide aujourd'hui que le cœur de Shylock. Bassanio frissonna. Il lui sembla que tout l'échafaudage de son avenir venait de s'écrouler. Mais j'y pense, ajouta Antonio, ce juif de malheur pourrait bien nous tirer d'affaire. J'attends de jour en jour des navires chargés de marchandises. Allons lui emprunter ce qu'il te faut. » Et tous deux se rendirent chez l'usurier, à qui Antonio exposa sa requête. « Tu peux fixer toi-même, lui dit-il, le genre et le taux d'intérêt qu'il te plaira. » « Je le tiens donc enfin, se dit Shylock, et je vais pouvoir d'un seul coup me payer grassement pour les outrages dont ce gâte métier m'a abreuvé. « Ah, tu hais les juifs, toi, ah, tu prêtes sans intérêt, et tu m'insultes devant les marchands, moi et mes honnêtes bénéfices. Maudit soit tout Israël, si j'ai pour toi quelque pitié. » « Eh bien, qu'est-ce que tu rumines là ? » fit Antonio, impatient d'en finir. « Veux-tu, oui ou non, me prêter cet argent ?»« Seigneur Antonio, répondit le juif, vous m'avez 100 fois à la bourse raillé sur mes richesses et sur ce que vous appelez mes profits illicites. Je me suis contenté de hausser pacifiquement les épaules. La patience est notre insigne à nous. Vous m'avez alors traité de mécréant et de coupe-jarret, vous avez craché sur mes vêtements d'israélite. Vous m'avez poussé du pied comme un chien. Or, il paraît qu'aujourd'hui, vous avez besoin de moi et vous venez me dire « Prête-moi 3 000 ducats. » Est-ce qu'un chien a de l'argent? Est-ce qu'un misérable roquet remue les ducats à l'appel? Dois-je me courber bien bas et dire « Mon bon monsieur, vous avez craché sur moi mercredi dernier. Jeudi, vous m'avez traité de vil matin. Trop heureux aujourd'hui de vous être agréable. Voici mes trésors, servez-vous donc. » « Non, répliqua Antonio, car je suis bien résolu à te traiter encore de même. C'est en ennemi que je viens t'emprunter. Prête-moi toi-même en ennemi. Si, par impossible, je ne pouvais te rendre au jour dit tes misérables ducats, eh bien, tu serais plus à l'aise pour m'en punir. » « Tout beau, seigneur Antonio, fit humblement Shylock. Pourquoi cette tempête d'indignation? Je ne demande, moi, qu'à me concilier vos bonnes grâces. Je suis si prêt à tout oublier que je ne vous demande pas un centime d'intérêt. » Le marchand ne put retenir un formidable éclat de rire. « Pas un centime ! Pas un centime !» continua Shylock sans s'émouvoir. « Seulement, histoire de plaisanter, nous irons chez un avocat, et vous me signerez un papier dans lequel il sera stipulé que si, à certains jours, vous ne me remettiez pas le principal, j'aurai le droit de vous couper aussi près du cœur que possible, une livre de votre chair. « Top là !» dit Antonio, « rien de plus belle. Je signerai tout ce que tu voudras. Et je dirai même partout que tu es un brave homme de juif. » « Je m'oppose absolument à ce que vous signiez à cause de moi un engagement de cette nature, » s'écria Bassanio. « Allons donc, » insista le négociant. « Bien avant que cet argent soit dû, mes navires seront ici avec 20 fois plus d'or que ne m'en donnera cet étrangleur d'honnêtes gens. » « Par Abraham !» s'écria Shylock. « Ces chrétiens sont gens bien soupçonneux. Leurs propres procédés les font se méfier de ceux d'autrui, paraît-il. Voudriez-vous me dire, seigneur Bassanio, ce que je gagnerais à ce marché si votre ami venait à ne pas me rembourser? Une livre de chair détachée d'un homme est-elle donc une si précieuse emplette? J'aimerais mieux, je vous l'avoue, une livre de bœuf ou de mouton. Encore une fois, ce que j'en fais est pour acheter son amitié. Est-ce dit? Très bien. Sinon, adieu. » En dépit des objurcations de Bassanio, qui, malgré les protestations de bienveillance du juif, se refusait à laisser son ami courir un pareil risque, Antonio signa le contrat. « Une pure plaisanterie !» insistait Shylock. Portia, la riche jeune fille que voulait épouser Bassanio, vivait à Belmont, près de Venise. Comme grâce personnelle et perfection de l'esprit, elle ne le cédait en rien à celle de ses illustres homonymes, qui fut la fille de Caton et l'épouse de Brutus. Subitement enrichie par l'héroïque témérité d'Antonio, Bassanio partit pour Belmont en grand équipage, avec Graciano, l'un de ses favoris, et sut promptement se faire agréer pour adorateur. Il n'avait pas caché à Portia qu'il n'avait pour toute fortune que sa haute naissance et le glorieux passé de sa famille. Mais la jeune fille l'aimait pour ses éminentes qualités personnelles. Elle était d'ailleurs assez riche pour dédaigner un mariage d'argent. Avec la plus gracieuse modestie, elle avait répondu à ses confidences qu'elle souhaiterait être 1000 fois plus belle encore et 10 000 fois plus riche, afin d'être plus digne de lui. « Je ne suis, lui avait dit cette femme accomplie, en se dépréciant elle-même par excès d'humour, qu'une fillette sans éducation, sans expérience du monde, pas assez vieille cependant pour ne pouvoir plus apprendre. Vous serez mon précepteur, vous me dirigerez en toutes choses. Je vous donne tout, mon cœur, ma main, mes richesses. Hier encore, mon Bassanio, j'étais l'âme de cette opulente maison, ma propre reine et celle de mes serviteurs. Aujourd'hui, cette maison, ses serviteurs, moi-même, tout est à vous, mon adoré seigneur. » Et ce disant, elle lui avait passé au doigt une bague de prix, emblème de la souveraineté qu'elle lui conférait. Bassanio ne pouvait en croire ses oreilles. Tant de délicatesse et de munificence le remplissaient d'admiration et de gratitude. « Jamais, s'écria-t-il dans un élan d'enthousiasme et de tendresse, je ne me séparerai de cette bague, gage de votre générosité et de votre amour. » Ce délicieux échange de serments éternels avait pour témoin Nerissa, fille d'honneur de Portia, et Graciano. Celui-ci s'empressa de féliciter les deux fiancés. « Combien je serais heureux, dit-il à Bassanio, si tu me permettais de me marier aussi et le même jour que toi. » « Qu'à cela ne tienne, répondit le noble Vénitien en souriant. « Mais encore faudrait-il te trouver une femme. « La voici, répliqua vivement le jeune favori, en désignant Nerissa, toute rougissante de plaisir. Nous nous aimons depuis longtemps, et elle m'a promis de m'épouser si tu épousais sa chère maîtresse. Serait-il vrai, Nerissa? Demanda Portia. Il ne dépend que de vous, madame, répondit coquettement la jolie camériste. Qu'il en soit donc ainsi, dit Portia, fort amusée de l'incident. Et Bassanio ajouta avec un fin sourire. Ce sera pour nous un grand honneur, seigneur Graciano, que d'assister à vos noces le jour même des nôtres. » En ce moment entrait un messager. Il remit à Bassanio une lettre d'Antonio. Le jeune homme l'eut à peine ouverte que son visage devint blanc comme un linceul. « Qu'y a-t-il donc ? » s'écria Portia. « Vous annoncerait-on la mort d'une personne qui vous est chère ?»« Ma douce amie, dit Bassanio, jamais ligne plus désolante n'ont frappé le regard d'un mortel. En vous déclarant mon amour, je vous ai dit nettement que ma seule richesse est le sang qui coule dans mes veines. J'aurais dû ajouter que je suis plus que pauvre, car je suis le débiteur de 3000 ducats. » Et il raconta la magnanime folie qu'avait faite Antonio. Puis il lut à Portia la lettre de son malheureux ami. « Mon cher Bassanio, écrivait celui-ci, tous mes vaisseaux sont perdus. Me voilà à la merci du juif, et comme il faudra que j'en meure, je voudrais te serrer la main avant de quitter cette vallée de larmes. Cependant, fais comme il te plaira. Et si ton amitié pour moi ne te ramène pas à Venise, considère ma lettre comme non avenue. » « N'est-ce que cela ? » s'écria Portia. « Je donnerais 20 fois 3000 ducats avant que l'on pût toucher à un cheveu de cet excellent Antonio. Partez, mon ami, rachetez sa parole et ramenez-le avec vous. Vous me serez d'autant plus cher que vous m'aurez plus coûté. » Et pour donner à son fiancé le droit d'user légalement de sa fortune, Portia voulut que les deux mariages eussent lieu le jour même. Bassanio partit alors en toute hâte avec Graziano pour Venise, où il trouva Antonio sous les verrous. « Ne crains rien, généreux ami, lui dit-il. Dans une heure, tu auras recouvré ta liberté. » Mais quand il se présenta chez Shylock, celui-ci refusa de recevoir les 3000 ducats. Le jour du paiement était passé, et le juif voulait la livre de chair promise par Antonio. Rien de plus, rien de moins. Un jour fut fixé pour les débats de cette monstrueuse affaire devant le duc et le sénat de Venise, et Bassanio attendit, la mort dans l'âme, l'issue de cette déplorable aventure. Portia, cependant, instruite de la date de l'odieux procès, réfléchit aux conséquences possibles de l'inhumanité de Shylock. Elle se demanda si elle ne pourrait pas elle-même sauver des griffes hébraïques celui qui, pour l'amour de son Bassanio, avait si noblement risqué sa propre vie. En épouse soumise, elle avait bien promis de se laisser gouverner en toute chose par la sagesse supérieure de son mari. Mais les circonstances lui parurent devoir légitimer un appel à ses propres forces et à la sûreté de son propre jugement. Elle résolut donc de partir aussi pour Venise et d'y plaider en faveur du prisonnier. Parmi ses relations, elle avait un illustre avocat du nom de Bellario. Elle lui écrivit, lui exposa le cas et le pria de lui envoyer en même temps que ses conseils tout ce qu'il fallait pour qu'elle pût se présenter devant la cour comme défenseur d'Antonio. Bellario lui obéit de point en point. Au jour dit, vêtue en avocat et accompagnée de Nerissa, qu'elle avait habillée en clair, Portia arriva à Venise, entra dans la salle du Sénat au moment où venait d'être appelée la cause d'Antonio et remit au duc une lettre de Bellario dans laquelle celui-ci s'excusait d'être empêché par la maladie de venir défendre l'accusé et priait la cour d'accepter en son lieu et place le jeune et savant docteur Balthazar, c'était le nom qu'il donnait à Portia. Bien que fort étonné de la bonne mine et de la jeunesse que dissimulaient mal la toge et la perruque du gracieux substitut, le duc fit droit à la requête de Bellario et le faux Balthazar prit place au banc de la défense. Au premier coup d'œil jeté par elle sur la salle, Portia avait deviné le juif sans entrailles et aperçut son mari qui, lui, ne la reconnut pas. Le pauvre Bassanio, debout près de son malheureux Antonio, semblait plongé dans un abîme de désolation. Portia comprit, à cette vue, combien ardue était la tâche qu'elle s'était imposée. Mais elle ne s'en sentit que plus déterminée à vaincre, et, la parole lui ayant été donnée, elle s'adressa sans hésiter à Shylock. « D'après la loi de Venise, lui dit-elle, vous avez le droit strict pour vous dans cette triste affaire. Mais comptez-vous pour rien la miséricorde, cette rosée bienfaisante et céleste qui fertilise l'âme de celui qui donne autant que celle de celui qui reçoit ? La miséricorde ! Mais elle sied mieux aux monarques que leur éclatante couronne, car elle est un attribut de Dieu lui-même, et plus les puissances d'ici-bas sont tempérées par la clémence, plus elles se rapprochent de la divinité. » Shylock, aussi impassible qu'un rocher, se contenta de répondre « Il n'a pas payé qu'il souffre. » « Mais, répliqua Portia, n'est-il pas prêt à vous payer ?»« Voici l'argent, s'écria Bassanio, et je décuplerai la somme s'il le faut, pour satisfaire ce démon. Ne pouvez-vous, jeune et docte maître, pour l'amour de l'humanité, tourner quelque peu la loi ? Une fois établies, dit gravement Portia, les lois ne doivent pas être éludées. J'ai donc raison, exclama Shylock. Jeune homme, vous parlez comme l'eût fait Daniel lui-même. Montrez-moi le contrat, dit Portia. Un coup d'œil lui suffit pour constater que le juif avait droit à une livre de chair, prise le plus près possible du cœur de son débiteur. Soyez néanmoins miséricordieux, dit-elle. Prenez l'argent qui vous est offert et déchirons ce fatal billet. Jamais, s'écria l'usurier. Je jure, par mon âme, qu'il n'y a pas sous le ciel une langue assez mielleuse pour me faire changer de sentiment. Antonio, dit Portia, préparez donc votre poitrine pour le couteau de Shylock. Voyez, il l'aiguise déjà. Qu'avez-vous à dire ?
Rien, sinon que je suis prêt.
Donne-moi la main, Bassanio, et adieu. Ne te désole pas de ce qui m'arrive à cause de toi. Parle quelquefois de moi à ta noble épouse et dis-lui que je t'ai bien aimé.
Antonio, s'écria le jeune homme, le ciel m'est témoin que ma femme m'est plus chère que ma propre existence. Et cependant, je donnerais pour te sauver la vie, ma femme et le monde entier. Je sacrifierais tout plutôt que de te voir la victime de ce monstre à face humaine.
Mais ta vie, insinua Portia, bien qu'en elle-même elle admira cet élan de chaude amitié, que votre femme, si elle vous entendait, vous saurait peu de gré de tant d'abnégation.
Moi, s'écria Graciano, ne voulant pas rester en arrière sur le terrain de la générosité, j'ai aussi une femme charmante et que j'aime à la folie. Mais si je pensais qu'en allant au ciel, elle pût échanger la résolution de ce maudit juif, je l'y laisserais aller à l'instant.
Il est fort heureux pour vous que vous disiez cela loin d'elle, intervint Nerissa, qui, tout en jouant à ravir son rôle de clerc, ne perdait pas un mot de ce peu galant colloque.
« Allons, trêve de baliverne !» cria Shylock. « La sentence, mon bon juge !»
Il se fit un profond silence.
« Les balances sont-elles prêtes ?» demanda Portia.
Et, s'adressant au juif, qui la dévorait du regard, « Shylock, lui dit-elle, il vous faudrait un chirurgien.
Pourquoi ?» fit l'usurier avec un soubresaut.
« Parce que votre victime pourrait succomber à une hémorragie. »«
Il n'est pas question de cela dans le contrat. »«
Non, mais il y aurait charité à y pourvoir. »«
Je ne me préoccupe que de mon contrat. »«
Très bien. Prends donc ta livre de chair. »« La loi est pour toi et la cour aussi. »« Et tu peux la prendre aussi près du cœur qu'il te plaira. »« La loi et la cour t'y autorisent encore. »«
Bravo, Daniel !» répéta le juif. « Sois béni, juge intègre sans peur !»
Et il se remit à aiguiser son long couteau, tout en jetant sur Antonio des regards de féroce allégresse.
« Je suis prêt !» répéta stoïquement le prisonnier.
« Un instant, juif !» dit Portia. « Le texte du billet est précis. Une livre de chair, rien de plus. Si en la coupant, il t'arrivait de répandre une goutte de sang chrétien, tes terres et toute ta fortune seraient, de par la loi, acquises à Venise. »
Shylock n'avait pas songé à cet ingénieux moyen de défense. Des applaudissements frénétiques éclatèrent dans toute la salle.
« Bravo, Daniel !» exclama Graciano en singeant Shylock. « Sois béni, juge intègre et sans peur !»«
J'accepte l'argent, donnez-moi l'argent !» glapit le juif atterré.
« Le voilà !» dit Bassanio, tout joyeux.
« Doucement !» reprit Portia. Le juif a insisté pour ne recevoir que son dû. Il n'aura donc que son dû.
« Allons, Shylock, prépare-toi à couper la livre de chair qui t'appartient. Mais prends-y bien garde. Pas de sang. Et ne va pas surtout couper plus ou moins d'une livre. Si tu te trompais de la valeur d'un myrdiagramme ou de l'épaisseur d'un cheveu, les lois de Venise te condamneraient à mourir et toute ta fortune reviendrait au Sénat.
« Mon argent, mon pauvre argent !» répéta Shylock, dont les dents claquaient de terreur. « Donnez-moi mon argent et je m'en vais. »
Bassanio lui tendit une bourse gonflée d'or. Shylock allait s'en saisir comme d'une proie, quand la voix calme mais vibrante de Portia vint de nouveau le clouer à sa place.
« Halte là, juif, je n'en ai pas fini avec toi. »
La loi de Venise est formelle contre tout étranger qui, directement ou indirectement, a attenté à la vie
d'un de ses citoyens. Ta fortune est, dès ce moment, confisquée et ta vie est à la merci du duc. À genoux, donc, misérable, et implore ton pardon. » Le duc fit signe qu'il allait parler et l'enthousiasme populaire, prêt à éclater, se contint à grand-peine. « Shylock, dit le souverain, je veux te prouver combien est profond l'abîme qui sépare l'esprit chrétien de celui de tes corréligionnaires. Je te pardonne avant même que tu en fasses la demande. Tu vivras, mais une moitié de tes richesses ira à Antonio, l'autre à l'État. « Je refuse, en ce qui me concerne, dit Antonio, si Shylock, qui a récemment déshérité sa fille unique, pour avoir épousé le jeune chrétien Lorenzo, consent à transférer, lorsqu'il mourra, à cette malheureuse enfant, la part que maloue sur sa fortune la loi de notre pays. « J'y consens, murmura le juif, heureux de s'en tirer à si bon compte. » Et, tombé du haut de ses rêves de vengeance, dépouillé de plus de la moitié de ses biens, Shylock quitta la salle à moitié fou de honte et de colère. La cour s'ajourna et Antonio fut remis en liberté. Le duc, charmé de la sagacité et de l'éloquence du jeune défenseur, voulait le retenir à dîner. Portia, qui désirait être chez elle avant le retour de son mari, remercia avec effusion. « Récompensez ce jeune homme comme il le mérite, dit en s'éloignant son Altesse à Antonio, car vous lui devez la vie. « Mon digne monsieur, dit alors Bassanio au prétendu docteur Balthazar, vous avez droit à notre éternelle reconnaissance. Mais mon ami et moi, nous ne savons vraiment comment vous la témoigner. Vous plairait-il d'accepter les 3000 ducats dus à cet abominable juif ?»« Non, répondit Portia, vous ne me devez rien. » Mais Bassanio insistant, « Eh bien, j'accepterai vos gants, dit l'astucieuse jeune femme, et je les porterai en souvenir de vous. » Bassanio ôta ses gants, et l'étendit à Portia. « Oh, la belle bague que vous avez là !» fit celle-ci d'un air dégagé. « Me la donnerez-vous aussi ?»« Hélas, j'ai juré de ne jamais m'en séparer, » soupira Bassanio. « C'est un présent de ma femme, et... »« Assez !» cria Portia, affectant la colère, et quittant brusquement la salle avec Nerissa. « Je n'attendais pas moins de votre reconnaissance éternelle !» Les deux amis restèrent interdits à cette brusque manifestation de déplaisir. « Mon cher Bassanio, dit enfin Antonio, cet homme nous a rendu un tel service qu'il me peine de te voir lui refuser un joyau sans grande valeur, simplement pour éviter un petit désagrément de ménage. » Tout honteux d'avoir pu paraître ingrat, le gentilhomme envoya Graciano porter en toute hâte la bague à Portia. « Ah ! S'écria Nerissa, en apercevant son mari, qui ne l'avait nullement reconnu sous ses vêtements de clerc, voilà qui est fort gracieux. Mais vous aussi, vous avez une jolie bague, et vous pouvez bien m'en faire présent. J'ai assez travaillé pour cela. » Graciano soupira plus fort que ne l'avait fait son ami. Mais pour ne pas paraître moins généreux que lui, il passa au doigt de Nerissa l'anneau que celle-ci lui avait remis au jour de leurs noces. Nous laissons à penser si les deux jeunes mariés firent des gorges chaudes aux dépens de leurs seigneurs et maîtres. Elles se promirent bien de les tenser vertement à leur retour et de les accuser d'avoir fait cadeau de leurs alliances à d'autres femmes. Quand, le soir, elle revit de loin sa splendide demeure de Belmont, Portia se sentit le cœur plein d'une suave allégresse. Plus elle s'en rapprochait, plus elle tressaillait de cette joie intime qu'éprouve quiconque a conscience d'avoir fait une noble action. Jamais la lune lui avait paru si brillante, et un nuage étant venu à en voiler l'éclat, elle s'éprit, dans un accès de gaieté enfantine, d'une petite lumière qu'elle apercevait dans le vestibule de son habitation. « Vois, Nerissa, dit-elle, comme ce modeste flambeau pénètre de ses chatoyants rayons l'obscurité de ma demeure. N'est-il pas le gracieux symbole d'une bonne œuvre illuminant un monde pervers? Et cette musique que j'entends au dehors ne te paraît-elle pas plus douce dans le délicieux silence d'une belle nuit? » Rentrée chez elle, elle reprit, ainsi que Nerissa, les vêtements de son sexe, et toutes deux attendirent tranquillement le retour de leur mari. Ceux-ci ne tardèrent pas, en effet, à arriver avec Antonio. Bassanio avait à peine eu le temps de présenter son ami à Portia, qui le félicitait vivement de sa délivrance, que le bruit d'une querelle assez vive entre Nerissa et Graciano attira leur attention.
« Déjà ?» intervint Portia, qui ne pouvait s'empêcher de sourire.
« Qu'y a-t-il donc, mes beaux amoureux ?»«
Oh, rien !» répondit Graciano. « Nerissa me cherche noise à propos d'une méchante bague qu'elle m'a donnée et qui portait cette magnifique devise digne des poétiques effusions dont les couteliers de Venise ornent leurs produits. « Aime-moi bien, je t'en conjure, et ne me quitte pas si tu es le parjure. »«
Que nous chantez-vous là ?» s'écria Nerissa.
« Avec votre poésie de carrefour et la mince valeur de cette bague. M'aviez-vous promis, oui ou non, de la conserver jusqu'à votre mort ?»«
Et voilà que vous prétendez l'avoir donnée à un clerc d'avocat. »«
À d'autres, mon joli monsieur. »«
C'est à une femme que vous en avez fait cadeau. »«
Tenez, je devrais vous arracher les yeux. Ne mentez pas, je sais tout. »«
Je jure, s'écria Graciano avec feu, que je l'ai donné à un méchant galopin, pas plus haut que vous, ma foi, qui servait de gratte-papier à l'habile défenseur d'Antonio. Ce minuscule bavard m'a tellement importuné de ses supplications que, pour ne pas devenir fou, j'ai dû la lui abandonner.
« Vous avez eu grand tort, Graciano, » dit Portia avec une gravité d'emprunt.
« C'était le premier présent de votre jeune femme, et vous deviez ne vous en dessaisir à aucun prix. »
« Ce n'est pas mon noble époux qui en aurait agi ainsi avec la bague que je lui ai donnée. »«
Votre noble époux, madame, » répliqua Graciano, décidé à brûler ses vaisseaux pour se tirer d'embarras, « avait commencé par donner la sienne à l'avocat, et c'est ce qui a enhardi ce petit diable d'écrivassier à me mendier la mienne. »«
Est-il possible ? » s'écria Portia dans un fin accès de colère.
« Ah, je vois bien maintenant que Nerissa a raison. » et que chacun de vous a fait à quelque vile créature des générosités à nos dépens.
« Sur mon honneur, ma chère Portia, » exclama Bassanio, « l'avocat d'Antonio, ayant refusé les 3000 ducats que je lui offrais, réclama pour tous honoraires la bague que j'avais au doigt. Je vous demande humblement pardon, mais qu'eussiez-vous fait à ma place pour reconnaître l'inappréciable service que cet éminent docteur nous avait rendu ?
Antonio se désolait sincèrement d'être la cause involontaire de cette tempête domestique.
« J'ai engagé une fois mon corps pour l'amour de Bassanio, » dit-il tristement à Portia.
« Sans l'homme à qui il a donné votre bague, je ne serai pas, à l'heure qu'il est, au nombre des vivants. Eh bien, j'engage aujourd'hui le salut de mon âme, s'il le faut, et je réponds que votre mari ne vous manquera jamais plus de parole. »
« Acceptez, » répondit Portia. « Remettez-lui donc ce second anneau et recommandez-lui de le mieux garder que le premier. »
En même temps, Nerissa passait aussi une bague au doigt de Graciano. À la vue des deux anneaux de leur fiançaille, nos deux maris restèrent muets de surprise. Les deux jeunes femmes riaient de tout leur cœur. L'explication de cet imbroglio ne prit pas longtemps et porta à son comble l'émerveillement des trois amis et leur admiration pour Portia. Antonio allait enfin se confondre en remerciements quand celle-ci lui remit certaines lettres que le hasard avait fait tomber entre ses mains et qui annonçaient l'arrivée au port des vaisseaux qu'il croyait perdus. Un si heureux dénouement fit promptement oublier tant de cruelles épreuves et tous s'amusèrent beaucoup de l'aventure des bagues et de ces maris qui n'avaient pas reconnu leur femme.
« Par Jupiter !» s'écria gaiement Graciano en se laissant aller à Rimer. « Vous me voyez tout confondu d'avoir été si sot, mais, soit dit sans reproche, ô belle Nerissa, je veux être pendu si jamais Claire de la basoche me fait mordre à nouveau dans le fruit défendu. »